Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. La nuit s'est bien passée pour le pape François au 9e jour de son hospitalisation. L'état du Saint-Père reste critique, mais il n'y a pas eu de nouvelles crises respiratoires depuis samedi soir. Les détails dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Togo, où Mgr Joseph Ballon, premier responsable africain de la section Français-Afrique de Radio Vatican, a été inhumé. Mgr Ballon qui est décédé samedi 1er février à Rome. L'actualité sociale et politique sur les continents nous conduira au Burundi, en République démocratique du Congo, au Soudan. Nous conclurons cette édition en écoutant le père Stanley Lubungo, supérieur général des missionnaires d'Afrique, qui nous parle du bicentenaire de leur fondateur, le cardinal Charles Martial Lavigéry, une occasion pour renouveler l'engagement des missionnaires d'Afrique à poursuivre les combats menés par le cardinal Lavigéry, celui contre les différentes formes d'esclavage. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendekere.
Au 9e jour de son hospitalisation, l'état du Saint-Père reste critique, mais il n'y a pas eu de nouvelles crises respiratoires depuis samedi soir. Ses valeurs sanguines s'améliorent, bien que certains tests montrent une insuffisance rénale initiale légère qui est sous contrôle. C'est ce qu'a indiqué la salle de presse du Saint-Siège dans la matinée du lundi 24 février. Le pape est alerte, bien orienté, on lui administre toujours de l'oxygène. Le pronostic reste réservé en raison de la complexité du tableau clinique et dans l'attente nécessaire afin que les thérapies pharmacologiques donnent des résultats, a précisé Matteo Bruni, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Et les communautés chrétiennes de par le monde ne cessent de se mobiliser en prière pour l'état du pape. Dans l'après-midi de dimanche, c'est en la basilique Saint-Jean de Latran que Mgr Baldo Reina, vicaire du pape pour les diocèses de Rome, a célébré la messe avec une intercession spéciale pour que Dieu soutienne François en lui donnant un soulagement dans son corps et dans son esprit. Dès ce soir, les cardinaux résidents à Rome, avec tous les collaborateurs de la curie romaine et du diocèse de Rome, se réuniront sur la place Saint-Pierre à 21h pour la récitation du Saint-Rosaire pour la santé du Saint-Père. La prière d'aujourd'hui sera présidée par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Dans un communiqué rendu public samedi 22 février, les évêques de la République démocratique du Congo dénoncent la stigmatisation des swahilophones, locuteurs de la langue kiswahili dans certaines parties du pays. Alors que la guerre sévit dans l'Est, zone même où se parlent les kiswahili, des mouvements se créent ici et là dans les pays, incitant à la discrimination et à la violence contre certains Congolais en raison de leur origine ou leur langue. Le kiswahili pourtant l'une des quatre langues nationales avec le Chiluba, le Kikongo et le Lingala. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Jean-Baptiste Malengue.
Par un communiqué signé le samedi 22 février par le secrétaire général de la conférence épiscopale, Mgr Donatien Cholet, les évêques catholiques de la RDC dénoncent le fait que certains pasteurs ou gourous exploitent les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours qui incitent à la discrimination, à la haine et à la violence contre d'autres Congolaises et Congolais en raison de leur origine, de leur langue ou de leur morphologie. Le communiqué de la conférence épiscopale évoque la cohésion nationale et rappelle le passé où des députés ou gouverneurs de province ont été massivement élus des part et d'autre dans l'est ou dans l'ouest du pays sans ségrégation d'origine. Les évêques tirent la sonnette d'alarme pour prévenir des conflits intercommunautaires. Les évêques en appellent à la maturité de toutes les communautés qui forment la nation congolaise contre la division et en particulier contre la chasse aux swahilophones, aux originaires de l'est ou aux étrangers. Les évêques en appellent au patriotisme, à la compassion, à la solidarité et à l'hospitalité envers les frères et sœurs qui se trouvent forcés par la guerre et l'insécurité de quitter leur terre, leur maison. Les évêques recommandent au gouvernement à prendre ses responsabilités pour assurer la protection à toutes les couches de la population, pour garantir la cohésion sociale et le bien vivre ensemble de toutes les races et les ethnies en RDC dans l'unité et la paix. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
aide à la réinsertion socio-économique des migrants de retour en Côte d'Ivoire. Vendredi 21 février à Abidjan, au siège de la communauté Saint-Égidio, Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale et du service du développement humain intégral, a procédé au lancement d'un projet d'aide à la réinsertion socio-économique des migrants ivoiriens de retour de Tunisie. Ce projet cible une centaine de personnes qui, après avoir bénéficié d'une formation en éducation financière, recevront un soutien financier pour réaliser des activités génératrices de revenus. Depuis Abidjan, Marcel Ariston-Blay.
Le projet de réinsertion socio-économique des migrants ivoiriens de retour de Tunisie est une initiative de la Conférence épiscopale ivoirienne à travers son secrétariat exécutif national des migrants, des réfugiés, de l'apostolat de la mer, du tourisme et des personnes en déplacement. Selon son responsable, le père Emmanuel Aka Amon, ce projet a pour objectif d'offrir un accompagnement multidimensionnel afin de faciliter leur retour dans la société ivoirienne en prenant en compte leur bien être social, psychologique et économique.
C'est un projet qui prend en compte 100 bénéficiaires. C'est vrai, c'est une goutte d'eau par rapport au nombre initial de revenus de Tunisie, mais nous pensons que ça peut apporter un soulagement pour aider ces personnes-là à pouvoir se réinsérer.
Dans sa quête d'espoir et de possibilités pour ces migrants ivoiriens, Monseigneur Yedo, évêque de Bondoukou, président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale qui présidait cette cérémonie, a invité les fidèles à être attentifs à leurs besoins. Il a également encouragé les migrants à prendre conscience de l'opportunité qu'ils ont de s'établir durablement ici en Côte d'Ivoire.
Le désert devient un cimetière, les mers deviennent des cimetières qui nous déversent sur les côtes des corps sans vie. Est-ce que c'est bon? Et pourtant, nos frères et sœurs de la sous-région viennent ici, ils initient leurs activités, ils réussissent. Pourquoi pas nous? Nous aussi nous pouvons. Donc il nous faut ouvrir les yeux, il nous faut avoir du mental, nous dire que nous pouvons réussir des activités ici et être heureux et non pas aller ailleurs.
Marcel Ariston-Blay, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Inhumation de Monseigneur Joseph Pallon au cimetière ecclésiastique du diocèse de Kara au Togo jeudi. C'était au terme d'une longue série d'hommages, de prières et de reconnaissance pour tout le bien qu'il a fait au nom de sa foi et de sa consécration au service de l'Église et de la société. Premier responsable africain de la section Français-Afrique de Radio Vatican, Monseigneur Pallon est décédé à Rome samedi 1er février après 34 ans au service du pape. Le reportage de notre correspondant sur place, Gustave Wamé.
Ce jour du 21 février 2025, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara a été investie par une foule immense de fidèles venus de divers horizons du Togo et d'ailleurs pour prier et rendre hommage à un homme de Dieu, Monseigneur Joseph Pallon. La messe a été présidée par Monseigneur Célestin Marie Gawa, évêque de Sokodé, entouré de l'évêque du lieu, Monseigneur Jacques Longa, et de la quasi-totalité des évêques du Togo. Dans son homélie, Monseigneur Longa a vu en Monseigneur Pallon un homme de foi, à l'instar d'Abraham.
Espérant contre toute espérance, écrit Saint Paul, Abraham a cru. Cette obéissance vous conduit par des chemins qui ne sont pas les vôtres. Ce fut particulièrement vrai pour Joseph Pallon. Au nom de sa foi et par obéissance à son évêque, d'alors, Monseigneur Chrétien Baptiste, qui s'est retrouvé au Vatican en 1986, jusqu'à son départ vers le Père, ce 1er février 2005.
C'est au Golgotha, dans le cimetière des prêtres du diocèse de Kara, près de la cathédrale, que le corps de Monseigneur Joseph Pallon a été déposé, au terme d'une longue série d'hommages, de prières et de reconnaissance pour tout le bien qu'il a fait au nom de sa foi et de sa consécration au service de l'Église et de la société. Gustave Wam, Kara pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur les continents. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo a coûté la vie à plus de 7000 compatriotes depuis janvier pour une part importante des civils, a déclaré lundi à Genève la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka. On n'a pas encore pu identifier l'ensemble de ces personnes. Maintenant, c'est très facile de dire que ces morts-là ne sont que des militaires, alors qu'il y a une masse importante de personnes civiles qui font partie de ces morts-là, a-t-elle souligné lors d'un point de presse en marge du Conseil des droits de l'homme tenu à Genève. Du fait de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, le Burundi a accueilli depuis le 12 février plus de 35 000 réfugiés congolais qui fuient la guerre, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur burundais. L'afflux continue et la situation humanitaire de ces réfugiés reste préoccupante et c'est une première fois que le pays accueille un grand nombre de réfugiés pour une courte période et le Haut Commissariat des réfugiés a déjà appelé tous les partenaires à l'accompagner en vue de répondre aux besoins de ces réfugiés. Le point avec Alain Désiré Boukeyeneza.
Ces réfugiés transitent dans des camps irrelatifs de la plaine pour identification. C'est dans les provinces frontalières avec la RDC. C'est depuis ce samedi que le premier convoi de ces nouveaux réfugiés ont été relocalisés vers le site de Mosenya en province Lutana, au sud-est du Burundi, tout proche de la Tanzanie. Le ministère de l'Intérieur a indiqué la semaine passée que le but étant de garantir leur sécurité, ainsi de nouveaux sites doivent être alloués au HCR afin de loger ces réfugiés qui ne cessent d'affluer. La représentante du HCR a indiqué mercredi que c'est la première fois depuis les années 2000 que le Burundi accueille un grand nombre de réfugiés en un peu de temps et d'appeler des intervenants en ce domaine d'appuyer l'organisation en réponse aux besoins spécifiques de ces réfugiés. Selon le site de l'ONU, le HCR enregistre un besoin de 40 millions de dollars en vue de répondre aux besoins de plus de 270 000 déjà déplacés de la RDC et faire face à un possible afflux de plus de 250 000 personnes. Au début du mois de février, le mouvement M23 contrôle les villes de Goma et Bukavu et certaines localités du nord et du sud Kivu. Bujumbura, Alain Désiré Boukeyeneza, Radio Vatican.
L'ONG Médecins Sans Frontières a décidé lundi de suspendre toutes ses activités dans le camp de déplacés de Zamzam dans la région soudanaise du nord Darfour à cause des combats et des violences. Malgré la faim généralisée et les immenses besoins humanitaires, nous n'avons d'autre choix que de prendre la décision de suspendre toutes nos activités dans les camps, y compris l'hôpital de campagne de MSF, a indiqué le responsable régional de cette organisation. Les missionnaires d'Afrique ou Père Blanc célèbrent le bicentenaire de leur fondateur, le cardinal Charles Martial Lavigéry. Samedi, le supérieur général, les conseillers généraux, les sœurs missionnaires d'Afrique et beaucoup de membres de cet ordre ont fait le pèlerinage et franchi la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Pour le père Stanley Lubongo, supérieur général des missionnaires d'Afrique, ce jubilé de bicentenaire est un temps de renaissance, de redécouverte de ses fondateurs au charisme original, un temps pour retrouver l'enthousiasme missionnaire qu'il a communiqué à ses confrères et le zèle missionnaire qu'il a toujours enseigné. Une occasion aussi pour renouveler l'engagement des missionnaires d'Afrique à poursuivre le combat mené par le cardinal Lavigéry, celui contre les différentes formes d'esclavage.
Tout d'abord, le pèlerinage est vraiment un temps de grâce qui nous est accordé par l'Église. Donc nous avons voulu nous associer à ce mouvement de l'Église entière et nous avons appelé en ce moment nos supérieurs provinciaux qui sont venus de partout dans le monde où nous sommes. Alors avec eux, nous avons choisi de franchir la porte. C'est comme si, en fait, eux, ils ont représenté aussi tous nos confrères dont ils ont la charge pour vivre ce moment important de jubilé. C'est comme ça que nous avons choisi de franchir la porte ensemble. Et nous avons associé aussi tous nos confrères qui habitent ici à Rome, mais aussi nos sœurs qui vivent en même temps que nous, ce bicentenaire, parce que nous avons le même fondateur.
Eh oui, vous avez évoqué les bicentenaires. Vous célébrez donc les bicentenaires de votre fondateur, le cardinal Charles Martial Lavigéry. Qu'est-ce que cet anniversaire si important représente pour votre ordre aujourd'hui?
Le cardinal Lavigéry est né l'année prochaine. Il y aura 200 ans à Bayonne, Donc nous avons voulu marquer un temps avec le cardinal. Donc pour nous, c'est un moment très, très important parce que c'est comme si nous allons boire à la source vraiment. Il y a quelques années, nous avons célébré le jubilé de notre existence quand il nous a fondés. C'était le jubilé de 150 ans, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'homme lui-même. Ça nous donne l'occasion de le découvrir davantage, de savoir le parcours vocationnel, mais aussi son parcours missionnaire lui-même. Alors, c'est un temps tellement riche, nous découvrons ce qu'il a écrit, puisqu'il a beaucoup écrit, et les difficultés qu'il a rencontrées, les joies, mais surtout les instructions qu'il donnait à ses missionnaires. C'est un temps pour nous, je peux dire, de renaissance, de revivre l'enthousiasme et le zèle missionnaire qu'il nous a toujours enseigné. Donc c'est un temps vraiment de découverte.
Et donc un temps centré sur la figure du cardinal Lavigéry, comme vous venez de le dire, et sur demande du pape Léon XIII, donc le cardinal Lavigéry avait lancé une campagne pour mettre fin à l'esclavage en Afrique. Il invita beaucoup de chrétiens à s'y engager. Et en ce jour, il existe encore beaucoup de formes de traite, en tout cas dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Qu'est-ce que vous, missionnaires d'Afrique, vous faites pour continuer ce combat que le cardinal Lavigéry a lancé de lutter contre l'esclavage et différentes formes de traite?
Oui, la campagne anti-esclavagiste menée par notre fondateur est un événement historique qui nous a beaucoup marqué, nous, et qui, en quelque sorte, a donné une grande orientation aussi à nos engagements pastoraux. Vouloir vraiment apporter partout où nous sommes la justice et la paix. Alors, en 2013, nous avons commémoré les 125 ans nous avons célébré le jubilé justement de la campagne que notre fondateur a menée. Ça a été un moment pour nous de nous engager de nouveau. Et nous avons donné une plus grande importance à ce genre d'apostolat, mais en collaboration avec d'autres groupes comme le groupe Talitha Kum. Et nous avons des confrères qui travaillent avec ce groupe. En Afrique du Nord, nous avons aussi des confrères qui s'occupent des réfugiés, disons des migrants, hein, tout ce monde qui cherche un monde meilleur ailleurs.
Et qui sont exposés.
Effectivement, voilà. Mais nous avons aussi des confrères qui travaillent dans des instances de prise de décision pour faire de la, si je peux dire, de la plaidoirie pour l'Afrique. Parce que, oui, l'esclavagisme, il y a aussi le néo, disons, colonialisme qui est une sorte d'esclavage. Et donc, nous avons des confrères qui sont dans des endroits comme à Bruxelles, à Washington, qui s'intéressent à la politique qui est, disons, en vigueur sur l'Afrique. Voilà, donc nous trouvons que c'est une façon aussi d'aider l'Afrique et le peuple africain à être conscient de tout ce qui peut les enchaîner encore. Donc nos confrères, même en Afrique, nous avons des centres dans quelques pays où les confrères conscientisent les fidèles qu'ils rencontrent de ce fléau encore aujourd'hui et d'éduquer les gens de sorte qu'on puisse ne pas retourner à ce que nous avons connu qui était quand même une page malheureuse dans l'histoire du continent.
Le père Stanley Lubungo, supérieur général des missionnaires d'Afrique, interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguin-Dekere qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Every
Everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight.